en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Ce sont deux auteurs confirmés de bande dessinée que nous recevons aujourd'hui. Le premier, nous l'avons déjà reçu il y a quelques années avec sa scénariste Marguerite Aboué pour la célèbre série Aya de Yopougon qu'il a d'ailleurs adaptée au cinéma. La seconde s'est fait connaître avec une série de portraits de femmes célèbres, Drôles de femmes, mise en image par Catherine Meurice. Ils se connaissent donc bien tous les deux puisqu'ils en sont à leur quatrième collaboration. Après Pablo sur la jeunesse de Picasso, après Il était une fois dans l'Est, après Isadora qui nous racontait le destin de la danseuse Isadora Duncan, le duo Clément Oubrerie et Julie Birman viennent de publier Le piège de la mer rouge, une nouvelle aventure de leur héroïne Renée Stone. Suspense, action, dépaysement assuré à travers un récit aux petits oignons qui nous emmène de l'Afrique de l'Est à la mer Caspienne en passant par Djibouti et la péninsule arabique sur les traces de plusieurs personnages inspirés du réel. L'album de fiction est paru chez Dargaud et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour aussi.
Et merci beaucoup d'être là. Alors, quand on écrit des romans, Julie Birman, c'est souvent pour faire vivre des aventures à des personnages, mais faire d'une romancière un personnage de série d'aventures, qui plus est en bande dessinée, ce n'est pas banal. Comment vous est venue l'idée ?
Je ne sais plus.
Ah bah c'est très ennuyeux pour moi, on peut arrêter l'émission maintenant, il reste encore 48 minutes. Hein. Voilà.
En fait, je pense que tout a commencé dans le désordre, comme toujours, et un jour... qui était assez récent. Je suis allée au Louvre et j'ai découvert en fait les salles assyriennes du Louvre avec les sculptures géantes de Gilgamesh, les morceaux du palais de Khorsabad et puis aussi d'autres périodes plus anciennes, sumériennes, Tello et tout ça. Et ça a été un énorme choc. Et je me suis dit comment j'ai pu passer à côté de tout ça. À l'école, j'ai eu une prof nulle à l'année où on doit normalement faire cette période-là. Et donc, j'ai sauté ça. C'était une énorme lacune dans ma vie. Et tout d'un coup, je me suis dit, il faut que je rattrape ça. C'est absolument extraordinaire. Pour moi, la Syrie, ça voulait rien dire, à part que j'avais une grand-mère un peu bizarre, une juive roumaine, tout droit sortie d'un livre d'Émile Ajar, qui me parlait toujours sur son lit, parce qu'elle était grabataire, de Nabucodonosor. Et donc, c'était très mystérieux pour moi. Donc, je reliais ma grand-mère à la Syrie. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé.
Oui. Et je vois toujours pas la romancière.
Ah bah la romancière, c'est un petit peu Agatha Christie, c'est un petit peu aussi, je sais pas, c'est dans l'imaginaire. J'avais envie d'inventer quelque chose qui ressemble un petit peu à Indiana Jones. Donc Indiana Jones, c'est pas vraiment un romancier, mais c'est un, je sais pas, c'est une sorte de mélange. Je sais pas d'où ça vient.
Bon, Renée Stone, c'est Agatha Christie, version BD, version terre romancée, Clément Oubrerie ?
Non, c'est pas Agatha Christie. Renée Stone, c'est un personnage de fiction. Simplement, comme toute fiction, elle se nourrit de plein de choses. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Agatha Christie comme allusion dans le livre. Il y a aussi Henri de Monfred. On convoque aussi
Peter. Il y a plein de personnages. Oui, mais on va les découvrir au fur et à mesure. Mais on va commencer par l'héroïne quand même. En plus, vous aimez bien les héroïnes d'ailleurs.
Hein. Oui, alors,
Julie Birman, vous aimez bien les personnages féminins. Et là, on en a un beau.
Oui, c'est vrai. J'avais envie de raconter l'histoire d'une aventurière. J'avais très envie de faire une Indiana Jones au féminin. Et votre question est intéressante parce qu'une fois qu'un personnage vit, on oublie d'où il vient.
Oui.
Mais c'est vrai que... c'est un méli-mélo en fait. Je sais pas comment tout ça est sorti de notre tête finalement, mais je sais que il y a un personnage réel aussi, mais qu'on connaît que en image, qui s'appelle Renée Perle, qui est une très belle roumaine, qui a été l'inspiratrice de Lartigue, le photographe. Et c'est une femme absolument sublime sur les photos de Henri Lartigue. Et elle nous a inspiré physiquement le personnage de Renée Stone. Donc c'est un mélange de Renée Perle et d'Agatha Christie, et ça fait ça.
Mais c'est vrai que le personnage tel qu'il apparaît sous votre crayon, Clément Oubrerie, ressemble un petit peu aux femmes que l'on peut croiser dans les adaptations au cinéma ou à la télévision des romans d'Agatha Christie. Vous pouvez nous la décrire physiquement, déjà son visage tel qu'il apparaît par exemple sur la page titre à l'intérieur de l'album.
Bah c'est une grande femme aux épaules très carrées, avec une coupe un peu à la garçonne.
Alors là, elle a les cheveux un peu gominés, là on sent qu'elle est quand même plutôt apprêtée, mais dans l'album, parfois, elle a les cheveux complètement raides parce qu'elle est mouillée, enfin vous lui faites quand même subir
excusez-moi, mais c'est le principe de l'aventure, on ne peut pas garder sa mise en pli du début jusqu'à la fin.
Mais ça aussi, ça vient d'Indiana Jones, parce que dans l'héroïne de l'Indiana Jones que t'adores, en fait, sans t'en rendre compte, elle est toujours en haillons, elle a des espèces de robes de soie.
Elle est en robe de mariée,
elle est en robe de mariée, parce que t'as toujours les méchants qui trouvent des robes et puis ensuite les robes sont lacérées, déchirées. Donc là, elle est quand même à un moment en maillot de bain, un autre moment en haillons.
Elle est souvent pieds nus d'ailleurs. Hein. Alors c'est ce qui est très étonnant parce que souvent elle a effectivement des robes très très élégantes, mais pieds nus.
Non, alors ça c'est à cause du scénario puisqu'à un moment ils doivent entrer dans une église sacrée et enlever leurs chaussures. Après quoi ils doivent s'enfuir. Et leur fuite dure au moins 20 ou 25 pages. Donc elle est pieds nus et les hommes sont en chaussettes. Vous noterez qu'ils sont tous en train de faire un duel au fusil en chaussettes.
Voilà, donc ce qui est déjà une façon assez exotique, assez drôle de raconter effectivement les aventures de cette dame qui s'appelle donc Renée Stone et qui, c'est vrai, fait penser à Agatha Christie. J'y reviens à plusieurs niveaux, ne serait-ce que parce que son compagnon d'aventure, si j'ose dire, s'appelle Mallowan et que Mallowan, c'est le nom du deuxième mari, si je parle sous votre contrôle, Julie Birman, donc d'Agatha Christie. Il était explorateur. Ou plus exactement, il était archéologue, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Non, pas du
mais
tout
c'est important parce que Agatha Christie a écrit un livre, La romancière et l'archéologue.
Voilà. Et donc, dans mes recherches, après avoir découvert le Louvre, j'ai lu ce livre, La romancière et l'archéologue, et j'ai adoré le ton totalement british de l'auteur et qui raconte ses aventures en Mésopotamie avec celui qui va devenir son second mari. Parce qu'en fait, elle avait un premier mari qui était assez insipide, un anglais assez... on va dire classique, un bourgeois classique, qui adorait jouer au golf, mais elle n'aimait pas jouer au golf. Et donc, c'est terrible.
Elle a souffert,
surtout que donc ce mari est donc tombé amoureux de sa secrétaire qui, elle, adorait jouer au golf. Et donc, dans la vraie vie, Agatha Christie, quand elle a appris ça, elle a fugué et elle a fait la une de tous les tabloïds parce qu'elle était célèbre, elle avait déjà écrit 2-3 romans. Et c'est vrai que c'est très inspirant, la fugue d'Agatha Christie et tout Scotland Yard qui était à ses trousses. Et donc ensuite, ça s'est un petit peu calmé, elle a mis sa fille en pension et elle a décidé d'aller au bout du monde. Et au départ, elle avait prévu d'aller je ne sais plus où, mais la veille de son départ, à un dîner, elle parle avec un type qui lui dit « Non mais moi j'étais à Bagdad, il faut absolument que vous alliez à Bagdad ». Et donc elle change ses plans et elle va à Bagdad. Et une fois à Bagdad, elle se dit qu'il faut qu'elle aille à Ur, qui est tout à fait au sud de l'Irak. Et là, à Ur, elle va visiter des vestiges incroyables parce que c'est là où, en fait, on a retrouvé autour des tombes royales. Toutes les suivants, en fait, et suivantes, les musiciens et tout ça de ces rois ont été assassinés en même temps. Et c'est un énorme mystère. Et donc, mais il ne reste plus rien là quand elle y arrive. Et elle est guidée par un Mallowan qui est un type beaucoup plus jeune qu'elle, très timide, et qui va devenir son second mari.
Donc Max Mallowan.
Max Mallowan.
Avec un seul L, sauf que dans l'album, il s'appelle plus Max, votre Mallowan à vous, il s'appelle...
John,
et avec deux L.
En fait, on a essayé en fait de s'amuser à tout décaler. Moi, j'adore lire toutes les histoires d'exploration. C'est ma façon à moi de faire du tourisme. Je me plonge dans les récits de voyage. Alors, il y a plein d'explorateurs qui sont allés comme ça dans les contrées que on vous fait visiter dans notre album. Et j'ai essayé de mélanger tout ça et de les connecter parce que il y a toujours un truc qui fait qu'ils ne se rencontrent pas dans la vraie vie. Mais nous, pour qu'ils se rencontrent, on a un tout petit peu modifié. Donc, on a modifié une lettre de leur nom de famille et on a permis que tous ces gens puissent se connecter entre eux.
Ce qui permet donc de laisser libre cours à l'imaginaire, à l'imagination du scénariste et du dessinateur.
Mais en même temps, ce qui est très amusant dans notre travail, c'est d'être dans un cadre réel. Et en fait, souvent, le réel est terriblement fou, mais c'est aussi comme un jeu où souvent... les enfants demandent aux parents d'inventer une histoire à partir de trois mots ou de quelque chose de réel. Et nous, c'est ça, en fait. À chaque fois, on part de quelque chose de réel et c'est le support à une aventure.
Un meurtre. Le plus célèbre détective de tous les temps, Hercule Poirot. Dans une fascinante croisière sur le Nil, parmi les grands mystères de l'histoire, où le plus grand de tous les mystères est « Qui a tué ?»
Je sens la présence du mal partout autour de moi.
Mort sur le Nil, d'après le chef-d'œuvre d'Agatha Christie. Avec Peter Ustinov.
Non, moi je fais seulement travailler mes petites cellules grises.
Et 9 vedettes suspectes.
Ouais, on a reconnu la voix de Roger Carrel, grand doubleur, hein, grand acteur de doublage notamment, et qui est donc la grande voix française d'Hercule Poirot. Alors on a bien compris.
Merveilleux Roger Carrel.
Voilà, merveilleux. Effectivement, il a aussi doublé Astérix.
Starsky et Hutch. Hutch.
Voilà, enfin, il a en tout cas une très très longue liste, hein, de grands personnages de fiction là à la télévision. Alors on l'a compris, il y a un lien évident entre René Stone et Agatha Christie. Donc on pourrait se dire, il y a aussi un lien évident avec Hercule Poirot. Alors, il n'y a pas Hercule Poirot dans l'album, sauf qu'il est quand même un petit peu là, quand même graphiquement parlant, Clément Ouvrary.
C'est vrai, je
à
dois
travers Peter Ustinov, vous voyez.
Être vaguement inspiré de
vaguement,
Peter Ustinov.
Oui, très vaguement, oui, très vaguement.
Mais là, alors donc là, on va, c'est un croisement de références qui devient trop compliqué parce que le personnage s'appelle Graham Gray, qui fait référence à Graham Greene, qui lui-même voilà, était
vous
un
multipliez
journaliste.
Les références. En fait, ce sont des albums clin d'œil en permanence. Vous jouez en permanence avec vous-même, avec le lecteur, avec la réalité, avec la fiction.
Alors, ce qu'on essaye quand même de faire, c'est d'avoir une existence propre. Donc, c'est bien d'avoir des références, mais il faut aussi que les personnages soient finalement originaux. Donc, parfois, en croisant une vache et un cochon, on obtient un résultat
chimères.
Intéressant.
Oui.
Et on espère que c'est le cas. En tout cas, le petit clin d'œil, c'est aussi de dire qu'on n'est pas seulement dans l'aventure, mais on est aussi du côté du roman policier, parce que même si c'est pas un principe systématique dans la série, personnellement, je suis assez attaché à ce qu'il y ait toujours un meurtre ou une énigme à résoudre.
Et pourquoi vous aimez ça?
Parce que ça fait partie de l'hommage, voilà, à l'aventure, au voyage et à, évidemment, notre héroïne qui, vous l'avez bien compris car vous êtes extrêmement perspicace, rappelle un petit peu Agatha Christie.
Oui, voilà. Donc le personnage de Graham Gray, c'est Peter Ustinov dans Mort sur le Nil, notamment.
Non, c'est
graphiquement parlant.
Oui, graphiquement parlant.
Oui, puisque je m'adresse au dessinateur que vous êtes. Donc il y a forcément la moustache.
La moustache est là, les costumes extrêmement cintrés,
oui.
Qui sur son physique plutôt imposant donnent un aspect un petit peu ovoïde au personnage. Et puis cette espèce de flegme et ce chic et ce détachement, parce que j'adore Peter Ustinov.
Il ouais. faut dire que quand tu le dessines sur un âne au oui. galop,
ah,
il
voilà.
est assez croquignolé.
Voilà, c'est pas là où il est le plus à son avantage.
Il y a un
c'est
petit vrai, côté Sancho Panza d'ailleurs.
Oui, voilà.
Sur cette scène-là. Est-ce qu'il y a aussi des petites cellules grises dans le personnage de Gray, de
Graham Gray? Gray, c'est le personnage le plus
y a pas
apparemment
nuance, en
tordu,
tout cas.
En fait, ouais. parce qu'en fait, c'est un reporter très célèbre du Illustrated London News.
Voilà, il n'est pas détective dans l'album, il est reporter.
Il est reporter.
C'est
et
le paparazzi un petit peu
et il
de
est,
la haute société.
Et il a un cynisme comme ça, c'est un alligator en fait. Mais il est très complexe. C'est notre personnage. C'est un personnage un peu. C'est le plus complexe parce que à la fois c'est un salaud parce que il piste Malowan et Stone en se disant je vais pouvoir faire vibrer mes petites lectrices avec leurs aventures.
Faut bien vivre.
Et en même temps, c'est le copain de Henri de Frick. Et Henri de Frick, c'est une sorte de pirate français. Donc c'est le seul français de notre histoire. Et c'est un vieux copain. Et on voit qu'ils ont vécu ensemble des tas d'aventures. Donc ça lui donne une étoffe. Donc oui, bien sûr, il y a plein d'allusions, mais ça nous amuse et tout ça. Mais après, on essaye de se créer des mondes, quoi, un monde propre. Et pour nous, ils sont extrêmement vivants et on a un peu oublié tout notre délire d'au début. C'est un mélange de machin.
Oui, mais attendez, parce qu'on va rajouter un autre élément au mélange, parce qu'il y a aussi des personnages historiques connus dans le monde entier. On en parle juste après la pause.
Living God to Selassie.
Selassie is in the chapel et Bob Marley dans VMDN sur RFI avec Julie Birman et Clément Aubrerie à l'occasion de la parution chez Dargo du deuxième tome des aventures de René Stone intitulé Le piège de la mer rouge. Alors vous qui nous écoutez, vous allez me demander quel rapport entre le reggae, Bob Marley et une histoire qui se passe dans l'Orient ou dans l'Afrique de l'Est des années 30. Eh bien pour répondre à cette question, il faut remonter au premier tome avec cet homme barbu que vous dessinez, Clément Aubrerie, avec une couronne sur la tête. On est à la page 20 de ce premier tome. Qui est-il, cet homme ?
Eh bien, c'est le Rastafari, puisqu'il paraît qu'on dit « i », non pas « aïe ».
Voilà.
Donc c'est Haïlé Sélassié.
Voilà. Donc pour qui, en l'honneur de qui, il a écrit cette chanson, précisément, Bob Marley.
Exactement.
Voilà, donc l'empereur d'Éthiopie, le Négus, comme on disait aussi. C'était important, justement, que vos personnages, donc inspirés souvent un peu du réel, mais quand même complètement fictif, se retrouvent comme ça au couronnement de l'empereur, événement historique s'il en est.
Alors, événement historique assez documenté, magnifique, somptueux, avec des costumes extraordinaires, les guerriers traditionnels qui sont inimaginables, avec des boucliers en or, enfin vraiment quelque chose de somptueux. Et effectivement, c'est pour nous, on a envie que notre intrigue soit ancrée aussi dans l'histoire, dans le réel. Et donc ça, c'était vraiment un événement formidable à mettre en scène.
Donc gros travail de documentation, notamment du point de vue graphique.
Ah oui, bah de toute manière, c'est toujours le cas hein, en ce qui me concerne. J'aime énormément dégoter des images, des films. Alors il se trouve que Pathé a beaucoup filmé le couronnement.
Donc là, le costume de l'empereur, c'est le vrai.
Bon, c'est le vrai.
Vous avez
pas les couleurs.
Voilà, vous n'avez pas forcément les couleurs. Forcément, mais bon, tout est censé pouvoir avoir eu lieu dans l'événement.
Il y a des images en couleur.
J'ai aussi des photos soit colorisées, soit en couleur, soit plus tardives, mais où on voit bien de quoi il est question. Et donc, oui, c'est très documenté, comme dans tous les lieux où ils se trouvent sont documentés.
Alors justement, les lieux, c'est important parce qu'ils voyagent énormément, hein, vos personnages. D'ailleurs, sur les pages de garde de chacun des deux albums, il y a des cartes, sont des cartes d'époque.
Sont des cartes de plus ou moins d'époque, sont des cartes anciennes qui peuvent, dont l'époque peut varier.
Voilà, mais c'est que vous avez décidé vous-même ou que
non,
vous avez reproduit ?
Non, qu'on a reproduit, que j'ai un peu repeint, et puis sur lesquels on a quand même essayé d'aider un peu nos pauvres lecteurs parce que ils bougent tellement. Oui. Donc on a tracé des itinéraires parce que ça c'est important. C'est aussi une manière de, comme l'a dit Julie, de voyager dans le temps et aussi dans ces régions qu'on connaît pas forcément.
Ouais, donc il y a l'Éthiopie, les Somalies britanniques et italiennes dans le tome 1. Dans le tome 2, par exemple, il y a Djibouti, Obok, la mer Rouge et puis jusqu'à la mer Caspienne et Bakou dans l'actuel Azerbaïdjan.
Donc on veut pas du tout être didactique ni pédagogique, mais quand même, on a envie de savoir où on est et on veut vraiment être décrire les endroits dans lesquels se trouvent les personnages.
Et par exemple, il y a aussi la Libella. La Libella, c'est pas n'importe quel endroit. Julie Birman, c'est un endroit où il y a des églises rupestres extrêmement, extrêmement, extrêmement singulières. Est-ce que vous êtes rendu d'ailleurs dans ces endroits qui ont l'air aujourd'hui très, très anciens, très exotiques et très mystérieux ?
C'est comme si on y avait été en fait. Non, on n'y a pas été. C'est aussi une des questions centrales de cette série pour moi en tant que scénariste qui suis une blonde plutôt d'Europe centrale. C'est comment voyager dans ces pays ? Et toute la série, elle va aussi s'articuler sur l'Irak, qui est le berceau de la civilisation. Mais aujourd'hui, on ne peut plus aller à Mossoul. Donc c'est aussi une façon, pour moi, mais aussi pour les lecteurs, d'aller découvrir des régions interdites, en fait. Interdites dans le temps, parce que plein de choses ont été détruites, et interdites à cause des guerres. Et voilà. Et donc, c'est une sorte de contre-tourisme. C'est-à-dire que c'est une plongée et un résumé, un condensé de tas de lectures et de beaucoup de travail, en fait, pour essayer de donner l'essence de quelque chose.
Oui, parce mais il faut juste préciser, si moi je fais un travail de documentation iconographique, Julie en amont sur une série comme ça, lit quasiment pendant une année entière.
Oui, il y a une bibliographie qui est assez impressionnante à la fin
de
avec des conseils de lecture.
Non, mais c'est tout, parce que tout est délirant. Par exemple, là on parlait de Haile Selassie. On a un personnage qui s'appelle Tessiger, qui est inspiré d'un vrai, qui s'appelle Wilfred Tessiger. Le nôtre s'appelle Alfred. Et ce Tessiger, là, en fait, lui, il a été célèbre parce qu'il a traversé le désert des déserts en Arabie. Mais il a aussi écrit un livre sur les Arabes des marais en Irak. Et il a commencé sa vie en Éthiopie. Il a été à la légation parce que son père était l'ambassadeur anglais d'Éthiopie. Et donc, il a été ami avec les enfants d'Haile Selassie. Il a eu une grande amitié avec Haile Selassie. Et il a été invité au couronnement d'Haile Selassie en 1930. Et il raconte dans ses livres ce couronnement et qui est pour lui le dernier moment, en fait, où il y a encore toutes les traditions d'Éthiopie qui sont visibles. Parce qu'il y a toutes ces tribus et tout ça. Il décrit ça. Et quand on lit ça, on se dit, mais c'est incroyable, il faut qu'on puisse le donner à voir. Et quand on cherche, on voit qu'il y a des archives d'images. Et on se dit, attends, c'est génial. Avec un dessinateur exceptionnel, on peut essayer d'inventer une histoire.
C'est vous, ça, le dessinateur
exceptionnel. D'essayer d'intéresser les gens par une intrigue en les faisant partir dans une aventure avec des personnages un peu fous, mais quand même vraisemblables et qui se tiennent. Et en fait, c'est ça l'excitation. Voilà.
Dirait des nouvelles sur RFI.
Avec les auteurs de bande dessinée Julie Birman et Clément Aubrery pour Le piège de la mer rouge, le deuxième tome des aventures de René Stone. Le premier s'appelait Meurtre en Abyssinie et déjà à ce moment-là, certains de mes confrères avaient comparé votre récit à Indiana Jones, dont vos oreilles ont évidemment reconnu le thème. Vous en parliez d'ailleurs vous-même tout à l'heure, Julie Birman. Et il se trouve que dans la petite bibliographie que j'évoquais à l'instant, il n'y a pas que Indiana Jones, il y a aussi le petit manuel du parfait aventurier. Signé Pierre Macorlan. Alors, quels sont pour vous, Julie Birman, les attributs du parfait aventurier de bande dessinée ?
Alors, de bande dessinée, je ne sais pas, mais en fait, cette allusion-là au truc de Macorlan, c'est une allusion à notre personnage Henri de Frick, qui est inspiré de Henri de Montfred, qui lui était un type qui s'est échappé de... Il était laitier et il avait fait faillite dans la laiterie.
Ah oui, c'est un destin incroyable, Henri de Montfred. Henri. Hein.
Et donc, en fait, il s'était échappé pour échapper aussi à sa femme, ses gosses et tout ça. Et il est arrivé à Djibouti, puis il a commencé sa vie d'aventurier là. Et en fait... Lui, ce qui a été très important pour lui, c'était justement de jeter aux orties ses chaussures, son casque colonial et tout l'attirail de l'aventurier dont se moque Macorlan dans ce livre. Donc c'était une petite allusion à ça parce que lui, Henri de Montfred, il a eu ce truc de génie qui était d'enlever ses chaussures. Et pour, à l'époque, il raconte cette histoire, Henri de Montfred, qui était que on n'avait pas tellement de respect pour les Occidentaux parce qu'ils avaient des chaussures et qu'on pensait que c'était une malédiction qu'ils avaient... dont ils avaient hérité pour avoir cloué les pieds de Jésus-Christ. Et ils croyaient vraiment que c'était une malédiction, ils étaient obligés de mettre leurs pieds dans des boîtes.
Voilà, Henri de Montfred, visiblement, c'est un personnage de bande dessinée à lui tout seul. D'ailleurs, chacun de vos personnages, finalement,
Julie
Birman,
mériterait une série
de...
Vous savez qu'il est dans Tintin.
Oui, il est dans Tintin, évidemment. Et en même temps, moi, quand on me dit Afrique, Henri de Montfred, bateau, Golfe d'Aden, Djibouti, je pense aussi à Corto Maltese.
Oui, aussi. J'ai beaucoup pensé à Pratt.
Forcément.
Alors, beaucoup dans le premier album, et moins dans le second, dans le sens où graphiquement, j'ai voulu complexifier les aplats, parce que ce qui est vraiment le génie de Hugo Pratt, c'est cette densité du noir, cette capacité à synthétiser les ombres. C'est vraiment ça son enfin, il a énormément de divers talents, mais ça c'est vraiment caractéristique et c'est très très difficile. Donc je m'y suis frotté dans le premier album.
Ah oui. Alors justement, sur les costumes, sur les reliefs des paysages, on sent tout de suite cette patte-là. C'est particulièrement compliqué, pour quelle raison, Clément Rory?
La simplicité, c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile. Hein. Donc si on veut avoir une palette large, c'est facile de représenter à peu près n'importe quoi. Si on n'a que deux couleurs, résumer un visage et décider où est l'ombre, c'est là le talent intervient. Donc il y a Franck Magnolia, il y a des gens comme ça qui arrivent. Mais j'ai peut-être pas cet esprit de synthèse suffisant, et donc mon naturel, c'est toujours comme ça, c'est que je pars sur une idée graphique et puis mon naturel revient au galop, qui est d'être un petit peu rentrer plus dans le détail, d'avoir plus d'outils à ma disposition, que ce soit un peu plus facile. Voilà.
Oui. Alors quelle technique est-ce que vous utilisez justement pour les ombres?
Alors là, il y a pas de secret, il y a que l'angle de Chine. Hein, c'est comme ça qu'on fait depuis plusieurs milliers d'années. Et donc, ce qui change, c'est la taille du pinceau. C'est-à-dire que plus vous prenez un pinceau fin, plus vous allez avoir de nuances dans vos ombres. Mais donc, voilà, c'est vraiment... Et c'est ça, c'est aussi le plaisir. Il y a un plaisir tactile et à dessiner avec l'encre. D'habitude, moi, c'est plutôt du stylo ou de la plume. Mais le pinceau, il y a vraiment... une fois qu'on s'y est habitué, parce que c'est une technique assez particulière, là, j'ai du mal à passer à autre chose.
À passer à autre chose, oui. Alors, donc, il y a les ombres, c'est une histoire de noir et de blanc, donc de lumière. D'une oui. certaine façon, Clément Aubrerie. Et puis il y a aussi les couleurs. Dans l'album, les couleurs, vous ne les avez pas faites tout seul. Hein. Il y a Nicolas Begg qui vous a aidé dans cette tâche. Qu'est-ce qui vous a guidé dans le choix des coloris? Par exemple, là, dans le tome 2, pour le bleu, un peu turquoise de la mer rouge. C'est un bleu très très étonnant.
Ça, c'est une demande spécifique de Julie.
Ah.
Voilà, parce que moi j'avais fait quelque chose, je pense, de plus sombre. Et dans son esprit,
il
devait y avoir quelque chose de corse, parce que Julie aime beaucoup la Corse.
Non, c'est aussi Monfred. C'est parce que moi, je suis une grande lectrice de Monfred et que il décrit admirablement. Monfred, c'était aussi un peintre, et donc il était son père était peintre et était ami de Gauguin. Et donc il y a des descriptions. Et donc lui, il dessinait quand il était en bateau. Et d'ailleurs, on a ces dessins qui sont très chouettes.
Oui.
Et c'est très fauve. Et il décrit admirablement les mers, les îles mouches. Les turquoises, les émeraudes.
Il est très habile aussi pour les embarcations, les bateaux, les voiles, ce qui est pour moi la chose la plus difficile à dessiner.
Parce que là, votre boutre est quand même assez impressionnant. Ça a été l'horreur de le dessiner.
Ah, c'est extrêmement complexe.
Ah bon ?
En plus, Julie est une navigatrice chevronnée.
Ah oui, donc elle avait l'œil particulièrement critique.
Elle a passé son temps à me dire que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, et elle avait raison. Et donc, voilà, le bateau, pour moi, c'est un être extrêmement mystérieux. Je comprends pas, il y a des fils partout.
Ouais.
Et il y a des gens qui tirent dessus.
Je l'ai emmené sur un bateau, je lui ai fait faire du catamaran, il est très bon.
Merci.
Donc, bon. Il se dénigre.
Oui, mais en dessin, il est pas trop mal non plus.
Non. Il a plein de qualités, ce garçon.
Voilà. Alors, cette mer rouge, hein, qu'on évoquait tout à l'heure, elle est au cœur, justement, d'une des scènes principales, hein, de ce deuxième tome, avec ce boutre, hein, donc ce bateau à voile, je le répète, qui va être pris en chasse par un autre bateau. On n'en dira pas plus. Il y a plusieurs scènes sur l'eau, sur la mer rouge, sur celle du lac Tana. Alors, le lac Tana, Julie Birman, disons-nous un petit mot, peut-être, c'est un grand lac qui est situé en Éthiopie. C'est la source du Nil bleu.
Exact.
Ah oui, j'aime bien ça.
Exact. Et donc il y a des cascades. Et donc en fait, nous on s'est un peu amusé ça, le côté un peu Indiana Jones. Si vous pensez à Indiana Jones, vous voyez tout de suite le héros sur un cheval en train de se casser la gueule, mais qui réussit in extremis à sauter dans un char et puis après à rebondir sur une moto. Et donc en fait, ce qui est assez amusant, c'était ça, c'était que le paysage et que les véhicules agissent sur les personnages. Donc là, Lac Tana, des énormes cascades du Nil bleu. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, il faut que il se passe quelque chose. Vous verrez en lisant l'album, il se passe quelque chose.
Et d'ailleurs, dans la première case de l'album, il y a précisément une représentation de nuit du lac Tana. Alors là, on a à la fois les ombres et les couleurs là, pour le coup, Clément Aubrerie.
Oui, c'est en fait les couleurs qui sont donc faites avec Nicolas Begg sont des. J'ai essayé de retrouver un peu l'esprit vintage des illustrés des années 50-60. Donc j'ai accentué les effets de points en fait. Et donc les couleurs sont un petit peu passées.
On voit un peu la trame, quoi.
Il y a une espèce de trame. Et voilà. Après, il faut le doser bien, mais j'aime bien. D'abord, j'aime bien qu'il y ait de la texture dans les couleurs.
Oui, on a presque l'impression de relief voilà, sur cette case.
Mais toujours, pas seulement. J'ai toujours eu des difficultés avec les couleurs, les aplats, parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de couleurs avec aplats. Donc moi, j'essaye vraiment d'amener une texture et une matière et une sensation très physique dans la couleur.
Ouais, et c'est donc avec cette case très 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 singulière, très belle, mais aussi pleine d'atmosphère. Déjà l'aventure est là dès la première planche de ce deuxième tome. C'est donc sur ce lac Tana que débarquent nos deux héros, donc René Stone et John Mallowan, dans une embarcation qui doit être plus simple à dessiner qu'un boutre.
Oui, ça c'est facile. C'est juste c'est un tressage en fait.
Les canoës en
roseau. Et donc c'est les embarcations traditionnelles sur le lac.
Voilà, et notre réalisateur Michael Gonçalves a mis en onde les deux premières planches de cet album.
Éthiopie 1930. Lorsque commence notre récit, René Stone et John Mallowan, nos héros en fuite, accostent sur une île inconnue du lac Tana. Mais revenons quelques heures auparavant, alors qu'il se trouvait dans l'église Saint-Georges de Lalibela, en bien fâcheuse posture.
On se calme, Stanford.
Freak.
Oui, j'ai moi aussi ma garde rapprochée, et je fais bien, n'est-ce pas? Si je ne veux pas finir malencontreusement assassiné comme Denis Mallowan et le père Soro.
Henri de Freak. Mon idole.
Quant à Mallowan, une fois qu'il aura gentiment fini de traduire la tablette, qu'en ferez-vous? Vous le pousserez du haut d'un ravin? Il est tellement maladroit, le pauvre.
Diffamation. Bon, assez de bavardage, Stanford. Lâchez ce fusil. Vous l'aurez voulu, Freak.
Voilà, deux pages et déjà quelques coups de feu, déjà, donc on est tout de suite dans l'action. C'est pas évident, j'imagine.
Si l'auditeur comprend quelque chose, oui. Alors c'est un génie.
Heureusement, on a déjà parlé de quasi la totalité des personnages, sauf Stanford. Alors justement, allez-y, parlez-nous de Stanford, Julie Birman.
Bah non, mais peu importe de Stanford. Ce qui est marrant dans cette scène d'ouverture, en fait, c'est que c'est une sorte de western. Et donc ils sont là, ils ont tous leurs personnages.
Western en chaussettes.
Nouvelle fois, visiblement, il a beaucoup dessiné les chaussettes, Clément.
Oui, parce qu'ils sont dans une église, quand même.
Voilà.
Donc non, c'est vrai que c'est assez difficile à comprendre comme ça, juste par le son. On voit que le dessin joue un rôle, en fait, dans la compréhension.
Oui, mais alors justement, c'est compliqué de faire une scène comme ça au début d'un deuxième tome, parce qu'il s'agit à la fois de s'adresser à ceux qui ont lu le premier, donc une sorte de rappel, hein, pour rafraîchir un peu leur mémoire, mais aussi de permettre à ceux qui n'auraient pas lu le premier tome éventuellement de rattraper un peu le train en marche, quoi. C'est quand même une sacrée gageure, non?
Ouais, je sais pas, c'est une façon un petit peu justement série B de fonctionner. C'est-à-dire que très souvent, on rappelle un petit peu, dans toutes les séries, on rappelle au départ, en quelques lignes, ce qui s'est passé avant.
Mais c'est vrai qu'on reprend la dernière scène du premier album, mais
sous un autre point de vue. Oui. Voilà.
Et ça, c'est le côté réel de Clément Aubrerie.
Et aussi, on a l'explication, parce que dans la fin de l'album précédent, on ne sait pas trop où sont passés les personnages, ce qui s'est passé en réalité. Donc, on a quand même la réponse à une question. Ce n'est pas juste une reprise de la scène.
Voilà. Donc, vous avez utilisé. Voilà, puisque le côté réel, comme disait Julie Birman, c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu cliffhanger à la fin du tome 1.
Comme ce seront des trilogies, puisqu'on a l'intention d'en faire de nombreuses autres épisodes, donc là, on aura une première trilogie avec à chaque fois, effectivement, le principe du cliffhanger, et puis une résolution finale qui paraîtra l'année prochaine dans le tome 3.
Voilà, avec donc de tels ingrédients quand même, hein, on se dit que c'est du cinéma, que c'est du théâtre, que c'est une série télévisée. Aujourd'hui, tu fais une bande dessinée de ce genre?
Alors du théâtre, je suis pas sûr, mais du cinéma, c'est en tout cas notre référence et c'est le souffle épique qu'on essaye de retrouver.
Donc avec le découpage, avec les ellipses, avec le cadrage, avec les ambiances aussi.
Et surtout avec des bons acteurs, parce qu'en fait, la bande dessinée.
C'est pour ça qu'on a commencé par les personnages,
oui,
parce que dedans, fallait les camper et expliquer un tout petit peu. Hein.
Voilà, et on voit que les personnages de bande dessinée sont bons quand ils commencent à avoir leur vie propre, c'est-à-dire qu'ils défendent leur point de vue, et souvent ils nous échappent, puisque On a une trame générale, on s'adapte au fur et à mesure dans l'écriture de ce qu'on a envie de raconter. Et on voit qu'il y a des personnages qui sont extrêmement sympathiques, qu'on a envie de faire revenir, qu'on sauve au dernier moment. Et c'est là aussi où c'est amusant.
Ils sont amoureux.
Alors, sur la page titre, Julie Birman, il est écrit, c'est le cas de le dire, donc Le piège de la mer rouge, donc il y a le titre, hein, et donc il y a le dessin de René Stone qu'on évoquait au début de l'émission, et puis juste en dessous, il y a marqué écrit par Julie Birman, dessiné par Clément Aubry. Alors déjà, il y a petite
c'est
référence
vrai,
de cinéma,
vrai.
Voilà. Mais est-ce que c'est vrai au sens propre du terme? C'est-à-dire que vous avez écrit un scénario, vous avez écrit des mots, vous avez écrit une trame, une sorte de synopsis que vous avez ensuite donné à Clément Aubry pour qu'il le mette en dessin. Ça s'est passé comme ça?
Ouais, alors moi, c'est un petit peu comme quand on écrit aussi un film. D'abord, on doit avoir une histoire qui se tient. Donc l'histoire, elle doit être bien condensée pour tenir. Et ensuite, on la développe. Et moi, je fais souvent, en fait, le découpage où je mets les dialogues. Et ensuite, je le donne à Clément. Et lui, il va refaire, si nécessaire, le découpage à sa façon.
Alors, qu'est-ce que vous appelez découpage, exactement?
Le découpage, en fait, c'est quand on prend sa page, on met les cases. Et puis, on met les dialogues dedans et les didascalies. Et voilà.
Donc les didascalies, donc là on en est au théâtre là pour le coup. D'ailleurs vous êtes dramaturge d'ailleurs aussi, vous n'êtes pas seulement scénariste.
J'ai fait des études où j'ai de mise en scène, mais en fait c'est le rapport au temps est très différent dans une page parce que le rapport au temps c'est en cases. C'est-à-dire que au théâtre c'est en temps. Alors que là, on fait des scènes avec des cases.
Là, l'unité de lieu n'est pas respectée. Hein,
pour le coup, non, pas du tout. C'est le peu qu'on puisse dire.
Mais en fait, ce truc de l'unité de lieu, c'est aussi le principe de la série et qui repose assez sur le réel. Parce que, comme je vous ai dit, donc, par exemple, Tessiger, il était à la fois en Arabie, à la fois en Irak, à la fois en Éthiopie. Mais tous nos personnages inspirés, ils ont fait ça. Par exemple, un autre qui est Rassam, qui est le sort de grand-père, qui est l'origine de notre histoire. C'est un type qui a aussi existé, qui s'appelait Hormuz Rassam et qui était un Irakien. Et lui, il est assez incroyable parce que dans la vérité, il a été avec l'Ayart qui ont découvert à Mossoul la bibliothèque d'Assurbanipal, qui était le dernier des grands rois assyriens et qui avait constitué une bibliothèque de tablettes absolument fabuleuse. Et il a retrouvé tout ça. Ensuite, il est allé à Londres et son rêve, c'était de devenir un vrai Anglais et un diplomate. Et il a demandé à la reine de lui permettre d'être diplomate. Et elle avait qu'une envie, c'était de se débarrasser de cet Irakien. Et elle l'a envoyé, en fait, en mission suicide en Éthiopie. Et donc, le vrai Rassam est allé en Éthiopie pour essayer de délivrer des otages anglais qu'avait fait le roi Théodore, qui était devenu fou et qui ne voulait plus les relâcher parce que la reine n'avait pas daigné répondre à sa lettre. Et il avait dit « Je ne libérerai les otages que quand la reine Victoria viendra s'agenouiller devant moi. » Et donc, il y était allé, il s'est fait emprisonner. Et donc, tout ça est raconté en vrai. Et donc, c'est l'Irakien qui se retrouve en Éthiopie. Et moi, j'ai juste rajouté dans l'histoire qu'il y va en piquant une tablette. Et toute notre histoire commence.
Voilà, et pour dessiner la tablette, avec donc cette écriture très particulière, comment vous avez fait, Clément Aubry?
Ben écoutez...
si vous voulez être réaliste et historique.
J'ai bêtement copié, hein, parce que j'avoue que j'écris très mal le mésopotamien, mais aussi on a fait appel à des spécialistes, parce qu'on avait besoin de dire des choses spécifiques, et donc ils nous les ont traduites et écrites, afin d'être sûr que Hamrumti... j'ai oublié la phrase exactement, signifie bien vieille pute en acadien.
Voilà, donc on peut vérifier si on est spécialiste.
Alors en fait,
Julie Birman,
il faut savoir que sur cette terre, il y a des gens qui parlent couramment l'acadien et qu'il y a des gens qui l'écrivent. Et
l'acadien avec deux cas, en l'occurrence.
L'acadien, oui, voilà.
Rien à voir avec
ce sont
Québec.
Les écritures cunéiformes, que c'est une écriture, c'est la plus vieille du monde, qui a plus de 5000 ans. Et donc, qu'il y a des gens, aujourd'hui encore, qui savent lire et traduire ces langues complètement oubliées. Et moi, je trouve ça fascinant.
Voilà, donc plein de choses, effectivement, dans ces deux albums. Clément Aubry, il y a une tradition dans cette émission, c'est que quand on reçoit un dessinateur, on lui demande de parler un peu des couvertures. Et c'est vrai que c'est intéressant, les deux couvertures. On parlait de cinéma tout à l'heure. On a vraiment l'impression que vous vous êtes largement inspiré des affiches des années 20 ou des années 30 de cinéma.
Exactement, ouais. Il y a vraiment, surtout dans le premier, je voulais faire une image composite qui soit un peu un hommage aux films d'aventure. donc de ces années-là. Dans le deuxième, sur la deuxième couverture, qui représente simplement Renée Stone dans une position assez spectaculaire où elle se met en appui contre une paroi qui est couverte de hiéroglyphes et elle a l'air d'être extrêmement en danger. Voilà, j'ai voulu faire quelque chose de plus simple et qui soit vraiment dans l'action, qui évoque l'aventure, l'action. Et voilà, qui présente moins de personnages, alors que dans la première couverture, on voulait aussi montrer un petit peu les personnages principaux. Et évidemment évoquer le cunéiforme qui est omniprésent sur la couverture du 1.
Voilà. Et puis il y a même les lettres, hein, qui forment chacun des titres. Donc jaune pour le premier et rouge pour le voilà. Second tome. Là on est vraiment dans l'affiche.
On est dans l'affiche et ce sera le cas pour le troisième volume également.
Le troisième volume qui est prévu pour
mai 2021, non ? Oui, c'est ça.
Voilà, vous êtes encore en train de le dessiner, parce que bon, on peut découvrir la couverture à la fin du tome 2, donc
oui,
là, la couverture est déjà faite.
J'ai déjà fait la couverture, oui. Parce
et,
qu'on a, les, on a
déjà
les éléments de l'histoire. Et donc, on est assez avancé.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avant de se quitter, Julie Birman et Clément Aubrerie, petit retour en arrière. C'était vendredi et samedi dernier, les 3 et 4 juillet, avaient en effet lieu les 48 heures BD, une opération de promotion de la bande dessinée proposée par l'association du même nom. Des activités et des rencontres avec dessinateurs et scénaristes avaient donc lieu un peu partout en France et en Belgique, autre patrie de la bande dessinée européenne. Notre reporter Amélie Beaucourt s'est rendue à l'un de ces rendez-vous. C'était vendredi après-midi à Paris. Reportage.
C'est devant la librairie BDNet, dans le quartier très animé de Bastille, à Paris, qu'ont été lancées les 48 heures BD. De grandes affiches blanches ont été accrochées sur les vitrines. Le but, réaliser une fresque collective et faire dessiner les passants.
On a eu une journée difficile et on est passé devant et on a trouvé ça rigolo de s'arrêter pour faire un petit dessin, parce qu'on a trouvé ça sympa comme initiative de dessiner et de faire une fresque collective, parce qu'il y a plein de gens différents et de styles différents et on trouvait ça rigolo.
Qu'est-ce que je dessine ? Pour l'instant, je sais même pas. Dans 3 minutes, je vous dirai. Pour l'instant, je sais pas.
Moi, je fais un petit smiley. Je pense que c'est représentatif un peu de... Tout le monde le comprend. C'est simple à faire. Et c'est parlant pour tout le monde. Un bon smiley.
Je dessine une fleur.
Mais vous voulez pas dessiner ?
Non, ce serait pas un service à rendre à la toile. Je suis très mauvaise en dessin. Je préfère que ce soit mes enfants qui fassent des Monsieur Patates, ça passe toujours mieux que des dessins moches d'adultes. J'assume pas.
Parmi tous les gens regroupés autour de l'affiche, un feutre à la main, se cachent deux dessinateurs, Nicolas Poupon et Peter Klopkar, invités à venir rencontrer le public et à s'affronter un peu plus tard dans une battle de dessin façon Pictionary. Une initiative qui ravit les passants, époustouflés de voir deux experts à l'œuvre, et qui pousse les artistes à sortir de leur quotidien. Peter Klopkar.
Tant que dessinateur, on est souvent reclus ou enfermé, et ça fait du bien un peu de, on va dire, entre guillemets, de se sociabiliser, de rencontrer du monde. Là, on fait une production devant tout le monde et ça change. Il y a une interactivité qui me plaît, moi, en tout cas.
La battle de dessin, c'est ce qui est le plus simple à gérer en temps de Covid, puisque là, on se retrouve sur la rue, donc il n'y a pas de confinement, enfin, il n'y a pas d'espace clos. Et le fait de dessiner en direct, on le voit, les gens s'arrêtent, les gens regardent.
Patrick Ourcade est coordinateur des 48 heures BD, une opération qui est rendue possible grâce à la collaboration des scénaristes et dessinateurs, mais également des éditeurs. Ils sont 13 cette année à participer.
Chaque éditeur qui participe propose une BD à 2 euros. Ça permet comme ça aux gens de découvrir une nouvelle série, par exemple, mais ça permet aussi à ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller en librairie de venir. Pour découvrir des titres qu'ils ne connaissent peut-être pas, ou ceux qui ont des revenus plus modestes, de découvrir une bande dessinée pas chère. Parce que 2 euros, c'est évidemment pas le prix habituel, mais ça permet là clairement d'entrer dans la bande dessinée. Donc c'est un moyen populaire de pouvoir lire de la bande dessinée pour tout le monde, puisque dans les 13 ouvrages, il y a du manga, évidemment, il y a des BD pour les enfants. Il y a des BD pour les ados, il y a des BD adultes. C'est quand même le seul événement en France et en Belgique qui regroupe une fois dans l'année des éditeurs qui sont habituellement concurrents.
Et en plus des différentes activités qui avaient lieu un peu partout en France, un live diffusé sur la chaîne YouTube et la page Facebook de l'association retransmettait vendredi et samedi des rencontres et d'autres battles de dessin en ligne, comme le match retour France-Belgique, 100% crayon et mauvaise foi, qui oppose, non pas sur un terrain de foot, mais sur une tablette graphique, deux dessinateurs français et deux dessinateurs belges.
Un reportage d'Amélie Beaucourt pour VMDN. Julie Birman, c'est une bonne idée ce genre d'opération pour populariser encore un petit peu plus la bande dessinée?
Bon, sans doute, je n'y connais rien en marketing, mais je suis toujours assez sidérée par le fait que les gens sont fascinés par les dessinateurs et qu'en même temps, reste encore l'idée que la bande dessinée, c'est un sous-genre en fait, même si ça a beaucoup progressé.
Oui, c'est de moins en moins vrai quand même.
En tant qu'auteur de BD, par exemple, dites-le à un officier de la douane aux États-Unis que vous êtes auteur de comics.
Oui.
Je peux vous dire que il vous prend pas exceptionnellement au sérieux.
Ah d'accord. Bon. Mais enfin, bon là, c'est quand même l'année de la bande dessinée en France. Alors, elle était un tout petit peu perturbée par l'épidémie de Covid-19.
C'est vrai que ça a changé. Mais en fait, dans le fond, il y a des trucs de fond. Tu vois, quand on dit, c'est moins pris au sérieux la bande dessinée, mais c'est pour ça que ça nous excite d'en faire, parce qu'on peut montrer qu'on peut dire plein de choses intéressantes, profondes, complexes, et que c'est pas forcément simpliste, et que dans un dessin aussi, il y a plein de couches. Et donc, il y a souvent ce truc-là que les mauvais élèves font des dessins, que le dessin, c'est beaucoup moins bien que de savoir écrire une dissertation sans faute d'orthographe, alors que, à mes yeux, c'est beaucoup plus difficile. Faire un dessin, un beau dessin d'un visage, c'est beaucoup plus difficile, mais bon.
Clément Aubrerie, à propos justement du déconfinement, vous avez pu la retourner justement à la rencontre de vos lecteurs, leur faire des dessins, leur faire des dédicaces? Vous avez repris un peu le chemin des librairies?
Pas du tout. Pour l'instant, pourtant on a l'album qui sort, mais il y a rien avant septembre.
Ah oui, d'accord. Donc ça prouve que les choses sont quand même très 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 très, très bien arrêtées. Donc le lapsus est intéressant, c'est pas ce que ça. Proposer un album de bande dessinée à 2 €, c'est une initiative qui vous plaît ou qui vous dit ben, on est en train de galvauder un peu notre travail?
C'est très bien que...
Ce sont pas des albums neufs, hein, en général, hein, qui sont concernés par les caractères.
Oui, voilà, ça concerne pas tous les albums, et puis tout ce qui peut encourager la lecture, évidemment, est bénéfique. C'est sûr que si tous les albums coûtaient 2 € tout le temps, ça poserait un petit problème technique à tous les auteurs de bande dessinée.
Ouais.
Mais et ce qu'on voit pas forcément, c'est que pour qu'un album de BD arrive dans une librairie, il faut le travail d'énormément de gens. Il n'y a pas que nous deux là. Il n'y a pas que l'artistique en fait. C'est fou le nombre de gens qu'il faut, qui travaillent, les représentants,
les libraires, les éditeurs,
Et maintenant qu'on a une ancienneté dans pas mal de maisons d'édition, on connaît vraiment les différents gens qui travaillent. Il y a énormément de gens qui travaillent pour que le livre arrive entre les mains des gens, et ça, c'est vraiment formidable.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir, Clément Aubrerie et Julie Birman, Le piège de la mer rouge, le deuxième donc des 3 tomes des aventures de René Stone, paru chez Dargo. Le troisième sera donc intitulé Le trésor d'Assurbanipal. Encore un très joli nom. Julie Birman, on a donc déjà la couverture et rendez-vous est pris. Merci à tous. Dans un instant, l'info sur RFI. On se retrouve demain pour évoquer un artiste sénégalais, un sculpteur, Ndarilo, une très très belle biographie, monographie avec de très très belles photos, des reproductions de carnets également. Vient de sortir, les deux auteurs seront avec nous demain et vous m'en direz des nouvelles.